Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Radio.
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Alors Vincent, avec les sondages qui se maintiennent là, à quelques virgules près, le président Donald Trump a besoin ce soir de genre de performance qui brasse des cartes, là, qui fait que les gens se reposent la question, ouais, Biden, y est-tu vraiment bon? Il faut secouer les puces.
Oui, vraiment, Donald Trump a besoin d'un coup de circuit. Je pense ce soir à 12 jours du scrutin, alors que tous les sondages donnent Joe Biden gagnant. Ben, faut comprendre, il y a quelques nuances là-dedans. Il y a des états clés où c'est quelques pourcents, on est dans la marge d'erreur. On se soupçonne qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne veulent pas dire aux sondeurs qu'ils vont voter Trump. Alors, on verra le 3 novembre.
Mais moi, je pense que c'est le phénomène numéro un qui pourrait être... Parce que il y a des gens qui disent les sondeurs s'étaient trompés en 2016. Ça, dire ça, c'est... Si vous redites ça, vous avez rien dit parce que c'est pas vrai. Les sondeurs se sont pas trompés. En moyenne, les sondages donnaient 2% de plus à Hillary Clinton. Ben, elle a eu exactement ça, 2% de plus.
Presque 3 millions de votes de plus.
C'est ça. Ouais. Les analystes qui ont utilisé les sondages pour faire un découpage État par État ont mal évalué... vraiment ce que malgré que Mme Clinton avait plus de votes, ce que ça allait représenter. Puis là, Trump a gagné plus de grands électeurs dans les États, est allé chercher par des faibles pourcentages un paquet d'États clés. Mais là, quand même, l'écart est plus de 2%. Là, l'écart est plus autour de 10, 9, 10, 11. Si l'écart est 9, 10, 11 à la grandeur des États-Unis, quand tu ramènes ça sur les États clés, il en manque, M. Trump. Faut qu'il gagne des points, il faut qu'il remonte. Là.
Effectivement, le chemin pour lui vers la présidence est pas mal plus compliqué là, que celui de Joe Biden sur quels États il doit avoir des surprises.
Ouais, l'autre affaire, c'est là, t'as un vrai facteur. Est-ce que ça se peut que Trump est devenu tellement gênant et populaire, la pandémie et tout ça, que les gens ne disent plus la vérité aux sondeurs? Ça se peut.
Parce qu'un 4%, mettons, la marge d'erreur...
Ils sont gênés de voter pour Trump, mais au fond, d'eux autres, ils pensent encore que c'est le meilleur, puis il est fort, puis il est tough, puis il se fait pas avoir, puis tout ça. Mais ils veulent pas le dire, même pas aux sondeurs. Là. Tu vois, ils le disent pas à leur mère, ils le disent pas à leur frère, ils le disent pas à leurs voisins qui vont voter pour Trump.
Mais dans l'isoloir...
Ils vont le faire.
Ils vont le faire. Peut-être. Effectivement, c'est dans les questions, et je pense que les sondeurs aussi doivent se poser cette question-là. Mais donc, ce soir, ce qui va être intéressant, vous rappelez, c'est à 21h à Nashville. On a vu d'ailleurs les deux candidats se rendent, donc Donald Trump qui s'est rendu un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et quelle sera la technique? Est-ce que Donald Trump va adapter sa stratégie? On sait qu'il a fait peu de préparation au dire de son équipe de campagne, on peut le croire, parce que sa technique du premier débat a clairement pas fonctionné, de juste crier. Là, son micro devrait s'éteindre au moment où Joe Biden a son temps de parole. Est-ce que ça va lui nuire? Est-ce qu'au contraire, ça permettra à Joe Biden de faire des erreurs, peut-être? Ce qui a été presque impossible.
Est-ce qu'il pourrait pousser l'affaire? Parce qu'en bout de ligne, quand on dit un micro fermé, là, puis là, je parle de quelque chose que je connais, ça nous arrive sur un plateau. Ça m'est arrivé une année, je recevais un invité, puis les batteries de son micro lâchent pendant l'entrevue.
Oui.
Mais les gens à la maison l'entendent quand même parce qu'ils rentrent dans mes micros. C'est sûr que le son baisse, là. Tu l'entends moins bien.
Tu l'as vécu à l'Assemblée nationale aussi, les micros se ferment. Tu peux gueuler encore, tu sais que ça rentre.
C'est ça, mettons que t'es l'opposition, dépendamment de la distance, c'est-à-dire que c'était à l'autre bout du salon bleu, mais là, eux autres, mettons, ils vont être à quoi, là? 3 mètres, 4 mètres, 4 ouais. mètres? Si il gueule, là, ça va rentrer dans le micro de M. Biden. Ça doit être des micros ultra sensibles, grosse qualité sonore. Puis tout ça, t'entendras pas bien. Tu vas entendre ça comme un son éloigné. Mais s'il dit quelque chose d'horrible, on va tous l'entendre. Là.
Est-ce qu'on va normalement on sépare l'écran en deux aussi, alors on peut juste le voir aussi faire des simagrées. On verra. Ce qui est sûr, c'est que pour Donald Trump, va vouloir montrer détailler les Biden comme une organisation criminelle carrément, là, revenir sur Hunter Biden et tout ça. On sait que Donald Trump se plaint de cette nouvelle façon de faire avec les micros éteints. Va essayer de ramener entre autres, parce que dans certains états clés, là, il y a la question de la fracturation hydraulique. Il en avait parlé.
Ça, c'est assez drôle parce qu'ici au Québec, t'as l'impression que ça, c'est les gaz de schiste, la fracturation hydraulique. Oui. C'est la technique pour aller chercher dans le cas des États-Unis, le gaz de schiste et le pétrole de schiste, qui a fait qu'on a dit de Barack Obama, voilà un grand président qui nous amenait à l'indépendance énergétique. Avant ça, les États-Unis étaient un immense importateur de pétrole, puis là, ils ont acquis l'indépendance énergétique. Mais je veux dire, ça s'est fait avec le fracking, là.
On sait que c'est un coût environnemental.
Mais nous, ici, au Québec, on a fait 2-3 puits expérimentaux, là. Pis on est convaincus, là, qu'on a fait on a découvert les dangers de ça, pis c'est épouvantable. Aux États-Unis, c'est des milliers et des milliers et des milliers de puits de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Écoute, peut-être qu'ils ont fait un dégât environnemental qu'on saura plus tard, mais pour l'instant, les villes s'effondrent pas.
Mais il faut dire que dans le camp démocrate, c'est loin de faire l'unanimité,
non,
le
là,
fracking.
Ça déchire les deux.
Mais pour Joe Biden, qui veut clairement, pour certains États comme l'Ohio, si on interdit le fracking,
la Pennsylvanie rurale, c'est super important.
Si on interdit ça, c'est des milliers d'emplois qui se perdent et Joe Biden perdrait des votes importants dans des États clés. Alors là, il est contre contre l'interdiction du fracking, de la fracturation hydraulique, mais Donald Trump essaie d'amener ce doute-là. Alors on va probablement essayer de le faire encore ce soir, plutôt que parler de la pandémie, évidemment. C'est un débat qui est supposé porter sur, entre autres, la politique internationale. On verra à quel point ce sera le cas. Et faut dire que, on le disait un petit peu plus tôt, Joe Biden a passé les 3 dernières journées, lui, à se préparer. Alors, sera très prêt. Et dans le cas de Donald Trump, un mot à savoir qu'il va se rendre voter. Donc, samedi, en Floride, c'est ce que la Maison-Blanche a annoncé tantôt. Pourquoi il vote en Floride? Le président a annoncé en 2019, à la fin de l'année dernière, qu'il abandonnait New York comme sa résidence principale pour se rendre à Palm Beach comme résidence principale. Alors, il vote maintenant en Floride. Pourquoi? Il disait, j'adore New York et les New-Yorkais, mais j'ai été maltraité par les élus à la fois de la ville et de l'État, entre autres au niveau des impôts, alors que historiquement, une des raisons pourquoi il a donc accumulé des richesses, c'est parce qu'il y a eu toutes sortes de congés de taxes et d'impôts à New York.
Dans le temps que New York était bien géré.
Oui,
par M. Giuliani.
Oui, même avant.
Même avant, oui.
Même avant.
Dans nos autres nouvelles, si on revient chez nous, il y a des nouvelles de la ville de Montréal, entre autres Tourisme Montréal qui crie à l'aide.
Oui, Tourisme Montréal qui réclame des programmes d'aide. Sinon, dit entre autres Yves Lalumière, le président-directeur général, on va reculer à Montréal de 10 ou 20 ans là, dans tout ce qu'on a bâti au niveau touristique, que la perception de Montréal comme destination touristique est abîmée présentement par tout ce qui se passe et surtout ce qu'on veut pas vraiment...
Je suis à moitié d'accord avec lui, là. Oui, il y a un risque de perdre ses atouts touristiques, il a entièrement raison. De dire que la réputation de Montréal est abîmée, je veux dire risque. Nomme-moi une ville présentement dont la réputation touristique est pas abîmée, là.
Même si t'as vraiment le goût d'aller quelque part, on peut pas y aller.
Réputation touristique de Paris, de Rome, de Londres, de Barcelone, Milan.
Floride.
Tout est abîmé, là.
T'as raison. Mais ce qui inquiète, c'est, on dit, la déstructuration de l'offre touristique. Donc, évidemment, si plusieurs meurent, ensuite, quand ça repart, là, t'as une offre
bons restaurants,
mais
c'est pareil. Mettons, ces questions-là doivent se poser dans toutes les grandes capitales européennes qui vivaient de tourisme.
Oui, faut dire qu'il y a certains hôtels de Montréal qui viennent d'investir des millions et des millions de dollars pour se refaire une beauté.
Ouais.
Et là, ça, si c'est long, c'est dur à supporter pour certains. Alors, on demande une intervention des gouvernements, alors qu'on le disait un peu plus tôt, Valérie Plante annonçait que pour faire une série de mesures pour aider le centre-ville, entre autres, ses parcomètres gratuits le week-end à Montréal pour que les gens, aient le goût d'aller faire leurs emplettes.
C'est une bien petite mesure, les parcomètres gratuits le week-end. C'est sympathique, ça faisait peut-être amener un petit peu de monde, mais dans l'ensemble des besoins du centre-ville et des commerçants du centre-ville, c'est une goutte d'eau dans l'océan.
Moi, je pense qu'on parle de certains axes routiers là, où toutes les rues perpendiculaires, c'est du résidentiel. Je veux pas non plus que les gens qui habitent là vont tous aller se stationner dans des commerces puis pas pour 3 jours. Donc, à voir, mais effectivement, c'est une série de mesures. Il y en a d'autres, là. On va favoriser la livraison urbaine pour des commerces locaux et autres. Mais on sent qu'au centre-ville, on a vraiment un problème.
Projet pilote de test à la frontière.
Oui, c'est ça que je te disais, là, un projet pilote sur 26 semaines. Alors, attendez-vous pas à voir ça de sitôt, mais un projet pilote d'Ottawa pour les aéroports ayant pour objectif de limiter la quarantaine. C'est-à-dire que si on arrive d'un voyage essentiel, les premiers tests se feront à l'aéroport de Calgary. On passe un test à notre arrivée à l'aéroport. Et ensuite, dès qu'il est négatif, on peut sortir de quarantaine. Donc, normalement, c'est 24 à 48 heures. Et ensuite, on doit avoir un deuxième test à peu près une semaine après notre arrivée. Et en gros, on est capable de éviter le 14 jours de quarantaine, ce qui permet là, un mouvement de gens beaucoup plus facile.
Pour le ministre François-Philippe Champagne, par exemple, lui, chaque fois qu'il quitte le Canada, il revient, il passe 2 semaines enfermé chez eux.
C'est très compliqué. Évidemment, l'objectif, si ça fonctionne bien, c'est d'étendre ça aux aéroports un peu partout et éventuellement aux voyageurs aussi qui le feraient pour le plaisir.
Bon. Mais ça, c'est vraiment un bel... Donc, tu dis ça, c'est un projet pilote de 26 semaines à partir de bientôt?
À partir de maintenant, là.
OK, donc 26 semaines, ça nous amène quoi au mois d'avril?
Oui.
Là, après ça, tu vas faire un plan pour progressivement
pour étendre ça
dans lequel... Quand la pandémie va être finie, tout va être prêt.
Une fois qu'on va tous être vaccinés, là,
on va être prêt.
On va être prêt.
La première étape franchie, donc, pour la confirmation de Amy Coney Barrett, cette juge de la Cour suprême aux États-Unis.
Oui, on sait que ça se fait devant la commission, une commission spéciale du Sénat.
Mais les démocrates sont même pas allés.
Non, et les 9 démocrates, dont Kamala Harris, qui fait partie de cette commission-là, ont décidé de faire la politique de la chaise vide. Alors, de toute façon, ils n'auraient pas pu faire virer le vote de bord. Alors, ils ont préféré ne pas se présenter. Kamala Harris disait que c'était un processus qui était une honte nationale, alors que Donald Trump lui a tweeté que c'est un grand jour pour l'Amérique. Ce qui est arrivé donc aujourd'hui, c'est qu'on a fait un avis favorable pour qui envoie donc le dossier à la Chambre haute du Congrès, donc au Sénat, pour la commission pour la séance plénière. Alors qu'au présentement, il reste un vote, le gros vote au Sénat qui est à majorité républicaine. Alors probablement que dès lundi, ce sera approuvé. Alors qu'on sait là, on approuve cette candidature là à la hâte, craignant que même le Sénat passe du côté démocrate, advenant une déconfiture aux élections.
Le MIT, université célèbre de recherche, entre autres, qui a développé un produit qui pourrait devenir populaire cet hiver chez nous.
Oui, ben quoi qu'il ne sera pas pour l'hiver non plus, parce que
c'est
peut-être le truc qui va sortir aussi à la fin de la pandémie, là, mais bon. Un masque qu'on développe présentement au MIT, un masque qui est dans lequel on intègre une espèce de grillage de cuivre ultra mince qui chauffe à l'aide d'une petite batterie 9 volts et qui automatiquement détruit le virus lorsqu'on le respire. Alors c'est pas, on ne bloque pas le virus par la propriété filtrante du masque, mais tout simplement par sa chaleur qui se retrouve à, dès qu'on expire ou inspire, le virus qui passe est chauffé et est automatiquement détruit.
OK, mais c'est pas un masque chauffant pour l'hiver.
Non, c'est chauffant, c'est pour
le virus.
Est-ce que ça permettra, on vise surtout les milieux où il y a vraiment des grands risques d'attraper le virus, dans le milieu hospitalier ou par exemple dans des autobus bondés.
Va coûter plus que 3$ le masque, j'ai l'impression.
Plus cher, mais l'avantage, pas besoin de le nettoyer. Et tant que tu changes les batteries, ça tue le virus automatiquement. Alors, on est en train de prouver le concept, de le développer. On a quand même des modèles qui sont avancés, mais on pourrait voir ça dans les prochains mois, un masque chauffe COVID.